Bon.
Bah alors, on va, cher Alain Touraine, échanger d'abord tous les deux, si vous voulez bien. Moi, je dois dire que c'est tout à fait impressionnant de vous avoir ce soir avec nous, parce que Alain Touraine, c'est, de mon point de vue, un des derniers grands monstres sacrés de la sociologie française. Puisque quand on feuillette votre biographie, c'est tout à fait extraordinaire. On croise les noms de Friedman, Gurwitch, on trouve même Talcott Parsons que vous avez croisé à Harvard aux États-Unis. Vous avez publié près d'une quarantaine d'ouvrages.
Un peu plus.
Plus que ça encore, plus que 40. Voilà. Et celui-ci qui est sorti il y a quelques semaines est intitulé « La fin des sociétés ». Et j'allais dire pour l'auteur en 1973 de « La production de la société hein, ». Voilà. Il y a, je ne dirais pas peut-être un début et une fin, parce que c'est évident que vous allez encore produire d'autres choses tout à fait remarquables. Je crois que ce qui est très fort dans ce livre, et vous le dites à plusieurs reprises, en particulier au tout début, page 13, les droits sont au-dessus des lois. Ça, c'est une phrase qui revient à maintes reprises. Et puis, page 24-26, vous me permettrez de reprendre un passage qui est avec un intertitre, la raison d'être de ce livre. Vous dites, d'une part, je parle en historien du présent et en sociologue d'un changement très profond des situations sociales, mais vous dites aussi, finalement, dans ce livre, il faut retrouver le sujet, car notre société ou nos sociétés ont éliminé le sujet. Alors, est-ce que vous pouvez nous redire les raisons d'être de ce livre dont le caractère d'urgence apparaît, j'allais dire, plus que jamais. Jamais je n'ai trouvé autant d'urgence dans votre propos.
Oui. Je vais essayer. Je vais essayer. Sans passer trop de temps à faire ce qu'on appellerait de la théorie ou du vocabulaire, mais il en faut un tout petit peu, une minute peut-être, peut-être deux, pas plus. Ce que nous avons toujours appelé une société, c'est quoi? C'est la correspondance, la complémentarité de deux choses. Un, des ressources qui sont bien sûr des ressources économiques, mais qui sont aussi des matières premières, mais qui sont aussi des capacités humaines, mais qui sont aussi un territoire, tout ce que vous voudrez. Et d'autre part, ce qu'on pourrait appeler des interprétations, et c'est ça que je voudrais vous rappeler en vraiment très peu de secondes. Une société parle d'elle-même avec un certain vocabulaire. Il y a beaucoup de sociétés, prenons le cas le plus connu, il y a beaucoup de sociétés qui ont parlé d'elles-mêmes, qui ont agi sur elles-mêmes, dont toutes les catégories de pensée et d'action étaient religieuses. Nous appelons un peu les temps modernes ou la Renaissance, dans le cas européen ou occidental, lorsque nous avons remplacé l'interprétation religieuse du social par une interprétation qui a eu une force extraordinaire, l'interprétation politique. Et vous vous souvenez probablement, beaucoup d'entre vous, du nom de l'homme, un Italien, qui a été identifié à cette transformation, celui que nous appelons Machiavel et qui s'appelait Machiavelli. Mais vous savez aussi, vous connaissez aussi, les grands penseurs qui ont marqué 3 siècles de pensée et de vie politique. Hobbes, Locke, Rousseau, vous pouvez probablement dire un peu, si vous voulez, Kant, mais, ou Hegel, mais il vaudrait mieux pas, et simplement dire, terminer avec Tocqueville et la jeunesse de Stuart Mill. Mais disons Tocqueville, ça suffit.
On peut dire Montesquieu ?
Comment ?
On peut dire Montesquieu ?
Vous pouvez dire Montesquieu, bien sûr. Je ne me mettais pas tout à fait au même niveau, mais pourquoi pas ? Pourquoi ? Grand esprit, assurément, indépendamment du fait qu'il est bordelais. Bon. En revanche, je ne dirai pas là-dedans le nom de Montaigne, qui n'a pas du tout ce souci de trouver l'explication du social, mais au contraire de dégager du social l'individu. À partir du XVIIIe siècle anglais, et surtout du XIXe siècle européen, américain, japonais, etc., nous entrons dans ce que nous appelons les sociétés industrielles, et elles ne parlent plus d'elles en termes politiques. Dans le cas français, c'est très curieux, parce que le changement de siècle s'est fait en quelques semaines. On pourrait presque dire en quelques jours. En février 1848, on est dans le renversement d'une monarchie, le remplacement d'une monarchie par, on ne sait pas encore quoi, ça va changer assez rapidement. Et en juin 1848, quelques semaines après, beaucoup d'entre vous ne savent peut-être pas ce qui s'est passé en juin 1948, mais beaucoup d'entre vous avaient lu l'éducation sentimentale de Flaubert, et donc vous savez bien que c'est les barrières, les barricades, que c'est les premières grandes luttes sociales préparées par les mouvements républicains des années précédentes, pendant la monarchie de Juillet. Vous avez grosso modo la même chose en Grande-Bretagne, la Grande-Bretagne étant d'ailleurs plus avancée que la France, nettement, que dans le chemin de l'industrialisation. Vous avez donc à ce moment-là, rapidement, on passe de la domination du politique aux dominations, je ne dirais pas de l'économique, mais de l'économico-social. Il y a des pays qui ont fait ça très bien, d'autres avec difficulté. Marx, que je citais à l'instant, a émis un jugement qui est resté très juste sur les Français en 1848.
Sur la politique et l'économique.
Il a dit, quand il s'agit de politique, les Français, ils sont au-dessus de tous les autres. Ils comprennent ça beaucoup plus vite que tout le monde. Quand il s'agit de problèmes économiques et sociaux, ils ne comprennent rien. Je crois que ça reste plus ou moins vrai, ou en tout cas partiellement vrai, avec des mauvaises conséquences. Mais en tout cas, on change d'interprétation, de langage, de vocabulaire. On ne sait pas, surtout en ce qui concerne l'industrie. Je dis surtout en ce qui concerne l'industrie, parce que dans un instant, je vais ajouter quelque chose de très important. Donc, si vous voulez, je peux dire que nous avons construit une société qui a pensé son action, son organisation, ses valeurs en termes sociaux. Et la preuve en est que pour parler d'elle-même, elle a inventé une science qu'elle a appelée la sociologie. Et la sociologie n'a nulle part été mieux défini que par un Bordelais. C'est-à-dire que Durkheim a dit le principe fondamental, c'est de n'expliquer le social que par le social. Pas par l'individuel, pas par l'économique, pas par le religieux, pas par le juridique. Le social doit être interprété en termes sociaux. C'est exactement dit beaucoup mieux que je ne le dis moi-même. C'est exactement ce que je vous disais il y a un instant. Tout se construit en termes sociaux. Et les problèmes sociaux, c'est avant tout les problèmes du travail. C'est la formation du capitalisme. C'est la formation des syndicats, des mutuelles, de l'éducation populaire, des partis socialistes ou anarchistes ou social-révolutionnaires selon les pays. Et ça sera finalement le grand éclatement de 1920 entre les socialistes devenus minoritaires et les communistes devenus, après la révolution soviétique de Lénine, majoritaire. Bon, voilà donc, je peux continuer comme ça très longtemps, mais tout ça, vous le savez très bien, nous avons vécu pendant 2 siècles, nous avons vécu, je pourrais dire, de 1789 à 1989, pendant ces 2 siècles, nous avons vécu avec l'idée que l'homme est ce qu'il fait par son travail. Homo faber, comme nous l'avons dit. Ce qui fait que, quand nous avons recommencé à faire de la sociologie en France après la libération, mais je dirais en Europe, tous les pays européens se sont remis à faire de la sociologie. Certains n'en faisaient pas beaucoup, beaucoup n'en faisaient pas du tout parce que c'était interdit. Et partout, on s'est remis à faire ce qui semblait le plus fondamental, c'est-à-dire de la sociologie du travail, en se disant, si on connaît la manière dont est organisé le travail, ce que font les gens, comment ils le font, au profit de qui, avec quelle méthode, etc., on comprend toute la société. Certains avaient même une certaine tendance à dire, une fois qu'on connaît la base de la société, on peut connaître son sommet. C'est sûrement pas moi qui dis ça, puisque je viens de vous dire il y a un moment que les interprétations d'une société, par exemple paysanne ou rurale, comme c'était au Moyen-Âge ou au début des temps modernes, c'est pensée politique et non pas, c'est pas pensée en termes ruraux. Bon, mais enfin voilà. Et maintenant, je choisis, non pas de continuer sur des considérations un peu théoriques ou générales, c'est fini, je préférerais vous raconter la chute de ce type de société, et aussi, en me laissant si possible un peu de temps, pour voir ce qui peut venir après, s'il vient quelque chose après. Peut-être il ne vient rien après. J'ai publié il y a quelques années, 4-5 ans, un petit livre qui s'appelait « Après la crise » et où je disais, et je pense que je le dis encore, malheureusement, que l'hypothèse la plus probable, c'est l'hypothèse des crises qui entraînent d'autres crises et qui aboutissent à une catastrophe.
Je peux même, avec votre autorisation, vous lire ces pages 574. Moi-même, dans un livre publié 2 ans seulement après la crise des subprimes, je considérais comme l'évolution la plus probable l'enchaînement des crises diverses marquées par de longues phases de décomposition entrecoupées par des points de conflit communautaristes. C'était, oui, vous étiez encore plus précis dans l'énonciation des séquences. Ouais. Alors.
C'est vrai. Alors, essayons d'abord très rapidement, si c'est possible, de dire en quelques mots ce qu'a été, ce qu'il faut appeler, je crois, la fin des sociétés qui se pensaient et agissaient en termes sociaux, la fin des sociétés en, au sens de qui se pensaient en termes sociaux. Commençons, étant donné la date à laquelle nous sommes, commençons par quelque chose d'extrêmement important et d'extrêmement dramatique. La forme d'organisation de nos sociétés, disons grosso modo dans le monde occidental depuis le XVIIe siècle, depuis 1648, comme je l'ai dit, c'est la nation, c'est la société nationale. Non pas du tout que tous les pays européens aient été des États-nations. En fait, un État-nation complet, absolu, il n'y en a eu qu'un. C'est la France. L'Angleterre, vous savez bien qu'elle s'appelle l'Angleterre, mais elle s'appelle aussi la Grande-Bretagne, parce qu'il y a l'Écosse, et ça s'appelle aussi le Royaume-Uni, parce qu'il y a l'Irlande du Nord, et puis parce que ça s'appelle aussi le Commonwealth, parce qu'il y avait le Canada, l'Inde, l'Australie, et la Nouvelle-Zélande, etc. Et une grande partie du monde. Les États-Unis, par définition, ils sont fédéraux, donc on ne peut pas dire que l'État soit national au sens étroit du terme. Mais enfin, disons la France, appelons ça l'Angleterre, parce que c'est un pays qui a une telle importance, y compris comme créateur d'empire, qu'on ne peut pas ne pas le mettre au centre de la description. Ajoutez aussi un pays qui a joué un rôle moins important, mais qui a été un État national très vite, la Suède. Bien. Mais à ça, ajoutons le cas le plus fréquent, c'est-à-dire des villes qui sont devenues des États. Et là, prenons les deux grandes régions qui ont joué le plus grand rôle dans la modernisation de l'Europe, c'est-à-dire l'Italie, mais surtout l'Italie du Nord, et puis ce qu'on appelait les Pays-Bas, et qui correspondent à ce que nous appelons les Pays-Bas d'aujourd'hui, ou qu'on appelle communément la Hollande, et puis la Belgique d'aujourd'hui, qui se sont séparés, comme vous le savez, seulement en 1830. Vous pouvez même ajouter quelques cas amusants, intéressants. Il y a des universités qui sont devenues des États. C'était le cas à Delft, c'était le cas à Liège, pour prendre des régions qui sont près, plus de chez moi que de chez vous, mais pas très loin de la France d'une manière générale. Bon. La guerre de 14, si nous pensons à elle juste un siècle après, c'est la destruction, le massacre presque volontaire de ces populations qui étaient les plus avancés du monde, et aussi en particulier des paysanneries, et en particulier d'ailleurs de la paysannerie française, et tout particulièrement bretonne, qui était massacrée parce qu'elle était dans l'infanterie. Bon, voilà la première destruction de ces sociétés qui étaient des sociétés nationales, et qui se sont détruites avec le système de Westphalie, c'est-à-dire avec la guerre des nations. Vous pouvez ajouter que l'invasion de l'ensemble de l'Europe par le système nazi a marqué une deuxième destruction de l'Europe des États nationaux. Voilà une première destruction, et une destruction dont on ne peut pas sous-estimer l'importance. Il ne faut surtout pas la sous-estimer, parce que la destruction humaine qu'a représentée cette guerre et les conséquences psychologiques, je veux dire le thème de la revanche, qui au départ, dès 1923, au départ du nazisme, de la constitution du mouvement nazi, voilà ce qui est l'effet de la guerre de 14, et j'ai pas besoin d'ajouter aussi, mais je vais y revenir juste maintenant, la révolution soviétique, qui sort en 17 de la décision prise par Lénine à Zurich pendant la guerre, en 17. Voilà une rupture qui est à elle seule assez dramatique, assez tragique, assez sanglante pour nous faire comprendre qu'il y a une rupture fondamentale qui s'est produite. La deuxième rupture que j'ai évoquée, puisque j'avais choisi de partir de ce point particulier, c'est la chute du capitalisme industriel au profit de la spéculation. Et là, vous êtes vraiment dedans, en ce moment, en plein dedans. Et l'écroulement de la crise financière de 2007-2008, c'est d'abord et avant tout ça, et ça entraîne après une crise monétaire et une crise de croissance et une crise politique et sociale, etc. Le troisième élément qui détruit profondément cette société sociale, cette société industrielle, je dirais que c'est la transformation du grand mouvement social qui voulait élargir au domaine du travail les principes de la démocratie politique, mouvement qui avait commencé à se constituer dans deux pays qui, là-dessus, étaient en avance sur les autres, l'Allemagne de Bismarck, où les syndicats ont été reconnus plus tôt que n'importe où ailleurs, et deuxièmement, l'Angleterre, où s'est constitué un groupe qu'on appelait les Fabiens, avec des intellectuels et des syndicalistes, et qui ont lancé ce qui a vécu fortement, intensément, pendant 100 ans, la social-démocratie, ou pour parler à l'anglaise, le Labour. Le Labour Party, qui appartenait aux syndicats, ce qui est la définition stricte de la social-démocratie. Que se passe-t-il avec ce mouvement ouvrier qui a provoqué des bouleversements formidable et probablement créé dans cette partie du monde le genre de vie sociale le moins dur à vivre pour la grande majorité de la population, en particulier dans cette période qu'on appelle de noms différents, les Trente Glorieuses, le miracle italien, le welfare state, etc., dans différents pays après la Deuxième Guerre mondiale. Tout ça, je vous l'ai indiqué d'un mot tout à l'heure, à partir de 1917 et surtout de 1920, tout ça est remplacé par des régimes léninistes qui sont dans leur définition même, ce n'est pas un jugement de valeur, qui sont dans leur définition même des régimes antidémocratiques. Le premier acte de Lénine, après l'élection de la nouvelle assemblée de la Douma, a été de fermer la Douma, de fermer, de supprimer la Chambre des députés, l'Assemblée nationale de la Russie. Et ceci, ai-je besoin de vous le dire, va se répandre à travers la Deuxième Guerre mondiale sur la moitié de l'Europe, sur une grande partie de l'Asie et sur des parties non négligeables des autres continents. Autrement dit, le renversement d'un régime, d'un mouvement de libération sociale, de démocratie sociale en un régime totalitaire est un aspect fondamental de la destruction de cette société sociale. Et enfin, parce que nos pays occidentaux n'étaient pas seulement des pays où la domination de la classe des possédants était très dure, sur les ouvriers, mais aussi sur les femmes, sur les enfants, sur les immigrés, sur des tas de catégories sociales, mais comme nous le savons tous, c'était aussi dans cette partie du monde que se concentrait le pouvoir sur le reste du monde par le système colonial qui lui-même, jusqu'à des dates variables selon les pays du genre 1848 pour la France, du genre des années 60 seulement pour les États-Unis, de 1800 je veux dire, le colonialisme qui est, de ce point de vue-là, le créateur des mouvements de décolonisation, de libération nationale, ce mouvement, comme le mouvement ouvrier a donné le totalitarisme stalinien ou maoïste, les mouvements de décolonisation ont donné presque partout des tyrannies nationalistes qui ont pris le plus souvent la forme de dictatures militaires et qui, quelquefois même, se sont transformées en dictatures religieuses pour évoquer, en tout premier lieu, évidemment, le cas de l'Iran, de Roménie en 79. Je fais le bilan. Les massacres de millions et de millions, surtout d'hommes, surtout de travailleurs manuels, pendant la guerre de 14, mais aussi de bien d'autres catégories, y compris d'artistes, d'intellectuels, etc. Deuxièmement, à deux reprises graves, avec les conséquences que nous connaissons tous, et en particulier après 1933, c'est l'arrivée d'Hitler au pouvoir, 1939, c'est l'invasion de la Pologne, et avant, c'était l'Anschluss, et entre les deux, c'était la prise de la Tchécoslovaquie, l'annexion de la Tchécoslovaquie. Troisième aspect fondamental de cette chute globale, il y a la destruction des mouvements sociaux qui deviennent entièrement dominés, transformés, défigurés, inversés presque par des régimes, des partis totalitaires et finalement des régimes nationalistes formés pour la libération des nations colonisées et qui deviennent dans l'immense majorité des cas des régimes autoritaire, comme le fut sous sa forme, sous sa déviation ou son évolution religieuse, le cas du régime iranien, ou comme le fut le cas de régimes formés laïcs, comme les gouvernements bassistes d'Irak et de Syrie, de la famille Assad, Hafez al-Assad et son fils Bachar al-Assad, qui sont devenus musulmans, de même que les mouvements palestiniens qui étaient marxistes et athées, et avec une population de militants qui étaient plutôt des chrétiens, surtout des orthodoxes, mais aussi des maronites. Et tout ça est pénétré par un islam djihadiste ou par des mouvements non religieux, mais qu'on pourrait appeler fondamentaliste, au sens où on peut appliquer justement ce mot au salafisme. Donc, voilà quatre éléments qui me semblent plus que suffisants pour parler de l'écroulement que nous venons de vivre au cours du XXe siècle. L'écroulement d'une société qui parlait d'elle en termes sociaux, en termes économiques, et qui voyait s'étendre peu à peu la démocratie de la politique au domaine social, au domaine culturel et même aux relations entre les gens au sens de sexe. Voilà ce dont il faut comprendre que ça constitue l'élément central, je dirais, c'est la définition du XXe siècle.
Alors, je me permets de vous interrompre, parce que ça, c'est l'état des lieux, d'une certaine façon. On est presque tenté de dire que vous décrivez quasiment une tabula rasa. Enfin,
c'est tabula rasa, si on peut appeler ça rasa, parce que
c'est un champ de ruines en tous les cas, hein, plutôt, voilà. Hein. Alors, en quoi est-ce que la construction du sujet, parce que vous dites même, voilà, il faut construire le sujet.
Hein, bien sûr que vous avez raison.
On a plus que jamais besoin de construire le sujet. En quoi est-ce que le sujet va pouvoir, j'allais dire, émerger sur ce champ de ruines?
J'ai presque envie de laisser un moment de silence pour que votre question pénètre bien dans nos têtes à tous. Parce qu'elle n'est pas simple et elle est fondamentale. Est-ce qu'il n'y a comme solution que la catastrophe? Je dois d'abord vous dire que beaucoup d'esprits, et parmi les meilleurs, pensent qu'en ce qui concerne l'Occident, la catastrophe est inévitable et que c'est d'ailleurs que viendra le salut. C'est par exemple ce qui était l'opinion du Français dont l'intelligence était peut-être la plus respectée, Claude Lévi-Strauss, qui disait « S'il y a une solution, elle viendra de l'Orient et pas de l'Occident. » Lorsque je disais « Le XXIe siècle a commencé à Berlin et à Pékin » avec la destruction du mur et Tiananmen, et a continué sur la place Tahrir au Caire, et en Tunisie, et dans d'autres endroits. Je disais, la dynamique, elle est là. Et qu'est-ce que nous avons à montrer en Occident? Oui, les indignados de la Puerta del Sol, à Madrid, Oui, les Occupy Wall Street à New York et dans une cinquantaine de villes américaines. Oui, le petit opuscule ou les petits opuscules de Stéphane Hessel, dont j'étais fort proche, et qui a exercé une influence considérable et très positive, mais enfin, tout ça n'a pas changé grand-chose. Et tout ça tient au fait que la jeunesse occidentale a été, surtout en Espagne, mais partout, touchée par un chômage brutal qui s'est élevé. Nous sommes encore au-dessus de 50% des jeunes chômeurs. Nous étions à 56% il y a quelques semaines chez les jeunes espagnols. Et nous avons en Italie et nous avons en France une proportion de chômeurs parmi les jeunes nettement plus élevée, souvent le double de ce que c'est pour les adultes. Donc tout ça est un problème, en effet, extrêmement sérieux. Bon, comment est-ce que nous pouvons essayer de trouver un espoir d'action? D'abord, je me permets d'attirer votre attention sur ces mots tout simples que je viens de prononcer. Je dirais, quand cette société sociale, sociologique, est détruite ou se détruit elle-même ou tombe en ruine ou est massacrée, en effet, le but fondamental, ce n'est, nous le sentons bien, pas de faire des lois, de prendre des décisions, d'organiser des systèmes d'appui de sécurité sociale, tout important que ce soit, et sûrement ça l'est, bien entendu, et personne ne dira le contraire, surtout pas moi. Mais nous sentons bien qu'il faut aller plus loin, c'est-à-dire recréer des acteurs. J'avais dans mon petit livre employé l'image, le monde d'aujourd'hui où chaque pays est comme un théâtre rempli par le public. Et il y a même des lumières, et il y a même des décors. Mais il n'y a pas d'acteurs sur la scène. La scène est vide. La scène est vide. Et quand elle n'est pas vide, c'est qu'elle a été remplie non pas par des mouvements libérateurs, mais par des mouvements de rejet, des mouvements de xénophobie, des mouvements de racistes, qu'ils soient antisémites, qu'ils soient anti-arabes ou, plus récemment, plutôt anti-islamiques, etc. Autrement dit, nous sommes dans une situation qui est effectivement une situation de vide d'acteurs, de manque d'acteurs. Alors que les raisons de l'action sont innombrables et visibles. Vous me direz, on voit se réveiller ici. Oui, on voit se réveiller ici et là des choses. Mais tout ça, comparé à ce qui a été détruit, n'est pas à la même échelle. Et je ne vais pas faire celui qui va sortir de sa poche la solution. Bien sûr que non, soyons sérieux. Ce que je dis, ce que disent tous ceux qui ont été emportés par ces mouvements de défense des droits fondamentaux. J'entends par droits fondamentaux des droits universels, c'est-à-dire applicables à tous, possédés par tous. Ce que nous appelons d'un mot tout simple, en général, la dignité. Sauvegarder la dignité humaine des êtres humains, quels qu'ils soient. Et surtout, quand ils sont menacés de perdre leur dignité, d'être emprisonnés, d'être condamnés à mourir de faim, d'être enfermés sans aucune raison, etc. Ce qui se passe dans le monde entier. Ce que j'ai voulu dire dans ce livre, et en particulier dans la deuxième partie, la partie centrale de ce livre, c'est que il n'est pas suffisant d'avoir ou de réclamer des garanties, des biens, des protections. Il faut affirmer ce que nous venons de dire il y a un moment. Il faut affirmer qu'il y a quelque chose qui est au-dessus des lois, au-dessus des pouvoirs, au-dessus de l'argent, qui est le sujet humain, c'est-à-dire l'individu ou le groupe humain. C'est la même chose. En tant qu'il a des droits fondamentaux. Et faire en sorte que les individus se chargeant de droits en devenant des sujets, parce que, avec d'autres, j'appelle leur subjectivation, sont capables de devenir des acteurs, c'est-à-dire de vouloir changer le monde et de réussir à changer le monde en le soumettant à la puissance souveraine des droits fondamentaux, des droits universels. Ce qui correspond à des pensées qui ont existé dans différentes parties du monde, ce qui nous pouvons dire, je crois, a marqué de manière particulièrement forte ce que nous avons appelé la civilisation occidentale, je veux dire, qui a marqué les trois grandes composantes historiques de notre civilisation occidentale, la raison grecque, l'universalisme chrétien et la notion de droits humains créée par la philosophie des Lumières et tout ce qu'elle entraîne essentiellement au XVIIIe siècle et dans toutes les périodes qui ont suivi, puisque la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'était en 1948. Comment est-ce que cela se forme? J'aimerais pouvoir répondre réellement, concrètement, à cette question. Mais je pense que chacun d'entre vous est exactement aussi capable et incapable que moi de donner une réponse suffisante, mais que ce que nous pouvons assurer, c'est que nous avons la conscience de la nécessité de placer au-dessus de tout cet universalisme des droits fondamentaux. C'est-à-dire, si vous voulez, notre droit d'humaniser, de désensauvager, de débarbariser le monde. Et nous pouvons dire que si nous sommes encore en pleine catastrophe et en pleine sauvagerie, surtout dans certaines parties du monde. Nous sommes aussi, nous devons être conscients du fait que c'est possible de faire des choses. Nous avons fait, d'autres ont fait, mais nous avons fait des choses. Je dirais même, sans vouloir exagérer, mais que ce n'est pas sans raison que pendant une période assez longue, un peu partout dans le monde, on pensait que ce pays-ci avait fait un peu plus que les autres, avait dit liberté, égalité, fraternité, que vous pouvez prononcer autrement, vous pouvez dire solidarité ou vous pouvez dire dignité autant que fraternité, mais enfin, que l'idée que la liberté et l'égalité doivent aller ensemble, c'est une idée d'une grande, d'une extrême profondeur. Alors qu'il est si facile de les opposer l'une à l'autre. Et donc, je dirais, parce que ça me semble plus concret que des remarques générales, que nous avons ce que certains appellent un devoir de mémoire. Je veux dire, nous sommes tout près encore des massacres, des assassinats de masse, des génocides. Nous sommes tout près et il y a des gens qui vivent dans ce monde blessés à mort, blessés dans leur humanité parce qu'ils ont subi ou ce que d'autres proches d'eux ont subi. Et nous devrions toujours et tous transformer, nous efforcer de transformer cette mémoire en rappel des droits, en protestation éthique. Je ne dis pas morale, parce que dans morale, il y a social, il y a un peu ce qui domine les mœurs à un moment donné. Là, il s'agit de parler d'éthique, c'est-à-dire de principes absolus et universels. Et c'est cela qui doit être l'essentiel. Je veux dire par là, arriver à faire pénétrer ces principes universels qui peuvent avoir l'air d'être impuissants parce qu'ils sont universels, mais qui peuvent apparaître aussi comme surpuissants parce qu'ils sont universels. Il faut les faire pénétrer aussi bien dans les lois que dans les programmes d'enseignement, que dans la manière de traiter des minorités ou la manière de traiter des déviants ou des criminels. Il faut qu'il y ait une action constante pour transformer des principes universels en pratiques effectives. C'est-à-dire, il faut, j'en reviens à ma formule, il faut nous transformer d'individus ou de groupes en acteurs, en chargeant sur nos épaules la responsabilité de faire respecter les droits fondamentaux, c'est-à-dire universels, dont sont privés tant d'êtres humains, de groupes et de catégories. C'est ça, ce que j'ai dit un peu plus longuement dans mon livre, c'est que, évidemment, toutes ces formes de destruction de la société que j'évoquais, elles sont toujours à l'œuvre. Il y a des forces du mal, les forces du mal sont les forces qui sacrifient les droits fondamentaux à la puissance du pouvoir, à la puissance de l'argent, à la puissance de la propagande ou du mensonge ou de la construction artificielle de la réalité. Mais l'essentiel est de dire, face à cette destruction de la société qui se pensait et agissait en termes sociaux et en termes de libération sociale, nous ne pouvons pas faire autrement que de mettre, si je puis dire, tout le paquet, c'est-à-dire de défendre constamment ce sujet, c'est-à-dire l'individu ou le groupe, en tant qu'ils ont des droits fondamentaux, comme tout le monde, autant que tout le monde, de les respecter pour eux et pour les autres, et de faire reculer. C'est-à-dire que, si vous voulez, l'objectif de la politique, disons, de l'action, mais aussi de la pensée politique autant que de l'action politique, c'est de créer des acteurs, de faire émerger là où les scandales existent et de les faire reculer ou de les détruire. Et je ne vois pas pourquoi ce serait plus impossible aujourd'hui que ça ne l'a été. Après tout, le premier acte de respect des droits fondamentaux, vous le connaissez bien que son nom soit en latin, vous savez bien que c'est les Anglais qui l'ont proclamé le premier, habeas corpus. Habeas corpus. C'est-à-dire que tu dois être maître de ton corps, on ne peut pas s'emparer de ton corps, on ne peut pas t'arrêter sans des raisons légalement valables. Et ensuite, et je termine ma phrase là-dessus, les mêmes Anglais ont proclamé en 1689 le Bill of Rights. Les Américains ont écrit leur déclaration d'indépendance, « We, people of the United States of America », et en ont fait le préalable de leur constitution. Et nous, Français, avons fait de tous ces textes le plus célèbre, dont nous avons aussi fait le préambule de nos constitutions successives. Par conséquent, il s'agit non pas de faire appel à la bonne volonté, mais de reprendre, après une phase, un siècle de catastrophe, de reprendre un travail, disons, de reconstruction, extension des droits fondamentaux et de leurs expressions concrètes. On peut penser que comme ce qu'on appelait le deuxième et le troisième monde sont aujourd'hui dominés par des régimes autoritaires dans des conditions souvent extrêmes, on peut penser, comme je l'ai indiqué moi-même en mentionnant la chute du mur, en mentionnant Tiananmen, en mentionnant la place Tahrir au Caire, etc., on peut penser que c'est là où la violence est la plus grande, que les mouvements de libération seront les plus puissants. On peut le penser. J'ajouterai simplement, je suis tout prêt à le penser, en ajoutant cependant que même si les actions les plus libératrices et les plus puissantes viendront probablement des régions du monde qui subissent les formes de domination les plus extrêmes, il n'en reste pas moins que l'élaboration des interprétations dont je parlais en commençant s'est faite en grande partie, pas uniquement, mais indiscutablement, en grande partie, dans la partie du monde où nous vivons et où nous agissons, et que nous avons, nous, en tout cas, une, je dirais, responsabilité intellectuelle pour les autres, mais aussi pour nous, qui est peut-être plus grande. Disons, il est difficile d'accepter l'idée que ceux qui ont, dans le passé, si souvent parlé des droits fondamentaux et qui ont fait reconnaître l'importance centrale de ce thème, se taisent, laissent faire, ce qui est le plus contraire, contradictoire avec ces droits fondamentaux, et ne sont plus capables même de prendre la parole, même si ce n'est pas eux qui vont prendre les armes. Par conséquent, je dirais, de toute manière, c'est de toi que parle l'histoire, comme dit le proverbe latin, et par conséquent, d'été fabula narratur, et par conséquent, nous devons nous sentir directement concernés par ce mouvement considérable, peut-être général un jour, en tout cas qui tend à se généraliser, de lutte contre les régimes autoritaires, qu'ils soient de contenu purement politique ou de contenu à la fois politique et religieux.
Merci beaucoup, merci cher Alain Touraine, merci, je crois qu'on peut vraiment saluer l'extraordinaire richesse de la pensée, j'allais dire de la maturation de la pensée d'Alain Touraine.